France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences. Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la marche des sciences.
La vie est apparue il y a 4 milliards d'années quand la Terre était bouleversée par des impacts, par les conditions étaient vraiment très inhospitalières. Et donc, dans ces conditions, on pense que la vie a dû démarrer d'une manière robuste pour résister à ça. Donc, qui dit robuste dit simplicité. Mais ça, c'est notre hypothèse de travail. Et on aimerait bien avoir une indication forte, une preuve de cette simplicité. Et une preuve de la simplicité serait donc de démontrer que la vie démarre ailleurs, ou a démarré ailleurs. Si le processus est répétitif, il est forcément simple. Recette de cuisine.
Une recette de cuisine que l'on peut penser simple, comme le disait l'exobiologiste André Braque le 17 août 2007 sur nos antennes. Mais une question qui continue de nous tarauder. Quand, où et comment est apparue et s'est déployée la vie sur Terre ? Ce questionnement scientifique pourrait aujourd'hui laisser croire à un consensus. Mais au vu des nouvelles avancées, il bouleverse quelque peu certains préjugés, non seulement scientifiques, mais aussi culturels et religieux. Et comment évolue la vie sur notre planète ? Autre facette de ce terrain d'étude qu'il ne faut pas oublier, loin de là, tant la main de l'homme joue un rôle majeur en ce domaine. À partir des dernières grandes découvertes, c'est une plongée dans l'histoire de la vie et de la façon dont elle a été sculptée au fil du temps que nous vous proposons aujourd'hui. Des premières cellules aux organismes pluricellulaires, de la naissance de la vie aux grands cataclysmes, qui ont vu disparaître des espèces vivantes sur Terre, j'en suis bouleversée jusqu'au dernier bouleversement justement du vivant et de la biodiversité, une quête du savoir, en tout cas qui anime plus que jamais les chercheurs de différentes disciplines avec l'espoir de découvrir de la vie ailleurs. D'où viens-je ? Qui suis-je ? Aux origines de la vie et après, une histoire racontée en direct sur France Culture avec notre invité Alexandre Ménez. Il est biologiste écologue, spécialiste des milieux marins et des premiers organismes, professeur émérite de l'université de Nice Sophia Antipolis et auteur du livre « Comment la vie a commencé ?», un livre que vous pouvez trouver désormais en version poche chez Belin et vous verrez, c'est un amoureux de la nature dont les expériences de terrain valent le détour. Et comme d'habitude, cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA, choisies par Anaï Morales. Et puis, en seconde partie d'émission, vers 16h45, en partenariat avec le magazine Pour la Science, nous plongerons dans le parcours de Paul Hellbronner, un géodésien de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à arpenter les Alpes pour les cartographier. Et nous serons en compagnie de Daniel Léon, en duplex de nos studios à Lyon. Il est journaliste et écrivain, auteur de l'article intitulé « Paul Hellbronner, le métronome de l'inutile », un article publié en page Histoire des sciences dans le dernier numéro de Pour la science. Et il est également auteur du livre Les Alpes d'Hellbronner, mesures et démesures, un livre paru aux éditions Glénat. Mais tout de suite, d'où viens-je ? Qui suis-je ? Aux origines de la vie et après.
Ça fait pratiquement 30 ans que je fais de la spéléo, et pour tout spéléo ou archéologue, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, mais quand on trouve ça, c'est le summum. En premier, c'est des traits. Deux petits traits à l'ocre rouge. Et en avançant, on s'est tourné, on a vu un premier petit mammouth de 25 cm. On s'est dit, il y a de l'art pariétal.
C'est votre grotte, maintenant ?
Ah non, ce n'est pas ma grotte. Une découverte comme ça, et c'est mondial, et puis c'est l'étude de l'humanité.
Bonjour Alexandre Ménez.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre la voix de Jean-Marie Chauvet, découvreur de la voix Chauvet. Il s'exprimait dans Intersoir, le 18 janvier 1995, et oui, date de cette découverte. Et je commence par cette archive sonore, c'est pas pour rien, parce que votre livre, justement, commence par l'évocation de la grotte Chauvet sur les terres ardéchoises et des terres qui appartiennent à votre ami Henri.
Eh oui, c'est exact. Alors j'ai voulu commencer mon livre par l'homme, l'origine de l'homme, qui est bien entendu un sujet qui est le plus divulgué, le plus vulgarisé, dont on parle le plus. Chaque fois qu'on trouve un ossement en Afrique, le sujet est relancé, tout simplement pour expliquer que c'est fascinant d'étudier l'origine de l'homme. Mais ce qui est encore plus fascinant à mes yeux de biologiste, c'est de savoir avant. Et avant, ça remonte à des milliards d'années, des milliards et des milliards d'années. Et quand je vois les anciens tableaux d'Adam et Ève, de Cranach l'Ancien par exemple, on constate tous qu'Adam et Ève ont un nombril. Ça vous laisse, ça vous questionne
ça,
pas.
Ça veut dire qu'ils ont, ils viennent de quelqu'un d'autre. Donc ça paraît étrange.
Exactement, exactement. La vie vient d'avant et avant, ça remonte à des milliards d'années.
Alors, cette question qui peut paraître simple, hein, quand, où et comment la vie est apparue et s'est déployée sur Terre, finalement, on se rend compte à travers vos écrits qu'elle engendre bien des questionnements scientifiques, déjà, d'une part, des débats pluridisciplinaires, et puis des scénarios variés. C'est une question scientifique en perpétuelle transformation, ébullition, on peut le dire.
Oui, c'est-à-dire qu'on trouve sans arrêt des petites découvertes qui s'additionnent, mais de disciplines très différentes. Et les auteurs de ces découvertes ne s'entendent pas trop forcément entre eux, hiérarchisent pas tellement leurs découvertes par rapport aux autres, et les placent pas dans un contexte général. Voilà le problème.
Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il peut s'agir des disciplines comme la géologie, la géochronologie, la paléontologie, l'astrobiologie, la bactériologie, biochimie, chimie organique, etc.
Exactement.
Et finalement, vous dites tous ces chercheurs de ces disciplines ont tendance à travailler un petit peu de leur côté, donc avancer des versions, des conclusions ou des hypothèses. Et vous, finalement, ce livre-là, dont on dispose aujourd'hui en version poche, hein, « Comment la vie a commencé », vous avez mis 15 ans à le concocter, si je peux dire, parce que vous avez malaxé toutes les informations de toutes ces disciplines pour essayer de nous en donner la symbiose.
Exactement, oui, c'était un cours que je devais préparer à l'université, et donc j'ai voulu l'améliorer, et en l'améliorant petit à petit, je suis arrivé à des conclusions, des synthèses qui me semblaient originales, et j'ai donc fait un livre. Et je me suis basé sur des centaines, dans le livre, il y a environ 600 références à la fin, de publications de vraiment importantes, hein, dans des revues très importantes, et en les additionnant, les cumulant, les comparant, on arrive à des conclusions qui sont, à mon avis, originales pour décrire l'origine de la vie et son déploiement sur Terre.
Avec votre regard aussi, qui est original, puisque c'est celui du biologiste écologue, et on le sent au fil des pages, pour nous raconter cette fabuleuse histoire du vivant. Alors, première peut-être question, ou en tout cas définition, est-ce qu'on peut donner une définition simple de la vie ?
Bon, le chimiste dira que c'est composé de quelques types d'atomes, hein, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, etc., il y en a d'autres. Le biologiste dira qu'une la vie, c'est quelque chose qui se duplique et qui se s'auto-construit, c'est-à-dire qu'elle prend des éléments dans son environnement, elle les traite, elle les constitue des molécules organiques et ensuite elle les dissout et les rejette. Donc c'est quelque chose un genre d'automate qui se maintient en vie et surtout qui se reproduit.
Et alors, du coup, c'est vrai que la question que l'on pose, c'est quand ? On a tendance à dire que entre 3,8 milliards d'années et 3,5 milliards d'années apparaissent les premières bactéries, c'est ça ? Finalement, au tout début, ce sont les bactéries.
C'est-à-dire que les traces, ça vient de la paléontologie, donc les traces de la vie la plus ancienne datent à partir de 3-5 milliards d'années. Les traces sont plus ténues, il y en a quelques-unes, hein, ça commence à apparaître. Plus le temps passe, plus on en voit apparaître des données là-dessus, 3-8 milliards d'années. Mais de toute façon, si on trouve beaucoup de types de bactéries à 3-5 milliards d'années, elles ne sont pas arrivées à 3-5.
Non.
Elles sont arrivées avant.
Forcément.
Et c'est un hasard considérable de pouvoir les trouver. Parce qu'il n'y a plus que deux endroits qui sont très anciens, c'est l'Australie et l'Afrique du Sud. Tout le reste a été bouleversé par la tectonique des plaques et on ne trouve plus de roches très anciennes. Et donc, ce que l'on trouve, ce sont des bactéries très développées, très diversifiées, à partir de 3-5 milliards d'années, et peut-être des traces plus ténues du carbone, qui est un carbone organique, et de l'oxygène qui viendrait donc des bactéries à partir de 3-8 milliards d'années. Oui.
Alors, les organismes unicellulaires, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de la flore et de la faune, eux apparaissent vers un peu plus tard, en tout cas.
unicellulaires, non, ce sont d'abord des unicellulaires. D'accord. Les bactéries unicellulaires, puis la faune et la flore unicellulaires,
oui,
disons.
Bien sûr, c'est, mais unicellulaires c'est à l'origine de. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les unicellulaires et ensuite les animaux végétaux pluricellulaires. Mais donc 2,7 milliards d'années, d'accord. Oui, oui, bon. Et ensuite les animaux et végétaux pluricellulaires qui apparaissent vers 570 millions d'années.
Ah non, bien avant. Bien avant.
Ah oui.
Ah, bien avant. Mais
vous voyez,
on vient
finalement, on n'est toujours pas d'accord.
Le livre est à jour, là. Le livre est à jour. Les dernières découvertes d'organismes pluricellulaires, c'est 2,2 milliards d'années.
2,2
Tout
milliards.
Évolue. Tout évolue. Mais on n'en trouve pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'organismes entre 2,2 milliards d'années et 6 milliards d'années, 600 millions d'années. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose.
Alors, on a ce sentiment-là qu'il y a des enjeux, hein, et ces enjeux, c'est aussi source de controverses. Ce sont les méthodes d'identification des bactéries, des traces laissées, dans une compétition scientifique féroce.
Oui, la compétition, c'est celui qui trouve l'organisme le plus ancien et qui apporte le plus de preuves pour que ça soit vraiment des traces anciennes. Alors au début, c'était simplement visuel, un fossile. Après, il a fallu apporter des traces de carbone, puisque le carbone organique qui est vivant, il a moins de C13 que de C12, donc il faut faire des analyses du carbone. Après, c'était des notions d'oxygène, tout ce qui peut oxyder des métaux comme le fer, c'est une trace de vie, parce que ce sont des bactéries qui ont libéré de l'oxygène. Enfin, bref, on essaye maintenant d'associer plusieurs techniques pour dire, moi, j'ai la technique la plus sûre qui permette d'identifier l'être vivant le plus ancien. Mais enfin, ça, ce sont des querelles de clochers. Maintenant, tout à l'évidence, 3-5 milliards d'années, un grand nombre de fossiles très différents. Et ensuite, les preuves sont plus ténues, mais il y a des preuves aussi.
Mais en tout cas, la communauté des scientifiques est souvent comme ça, animée de ces débats. Vous évoquez dans votre livre un débat qui a commencé en 1993, quand un expert a décrit des bactéries pluricellulaires pétrifiées dans de la silice provenant d'Australie et datées de 3,465 milliards d'années. Et là, ça a créé un choc quand même.
Alors, ce qui est très amusant, c'est que ça a été contesté. Donc moi, j'ai eu cet auteur, je l'ai eu, ce chercheur au bout du fil. Ça a été contesté violemment lors d'un congrès de paléontologues par un dénommé Brasier, qui est en Angleterre. Et ce même Brasier, quelques années plus tard, a trouvé des choses similaires qui ressemblaient beaucoup et qui, pour lui, sur certains, sont des bactéries de 3-4 milliards d'années. Voilà, c'est très bizarre, mais c'est comme ça.
Non, mais c'est comme ça qu'avance la science et l'histoire aussi. Alors, après quand, la question c'est où, sur Terre ou dans l'espace, avant de plonger dans cette question, je vous propose un petit retour au cœur des archives INA, France Inter, 7 août 1996. Pierre-Yves Dugas nous parle de météorites depuis Washington.
Les savants de la NASA et de l'université de Stanford en Californie doivent confirmer tout à l'heure les détails de leur découverte historique aux ramifications universelles. Il leur semble très vraisemblable qu'une forme de vie primitive ait été présente sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années. Il s'agirait de microcellules qui ressembleraient à des bactéries et dont ils ont retrouvé des microfossiles encastrés dans un météore venu de Mars et s'étant écrasé dans l'Antarctique il y a 13 000 ans. La NASA s'empresse de préciser qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve que ces cellules aient évolué vers des formes de vie intelligentes comme sur la Terre à la même époque. Jusqu'à présent, les diverses sondes envoyées sur Mars n'y ont découvert aucune forme de vie passée ou présente. L'existence toutefois de canyons et de lits de rivières asséchés sur la planète rouge a toujours intrigué les astronomes. La NASA et l'agence spatiale russe ont du reste prévu de reprendre leur exploration de Mars dans les prochains mois.
Alors Alexandre Ménez, une petite réaction. Donc cette annonce faite en août 1996.
Ah oui, moi ça me parle. Hein. C'était la découverte d'une météorite qui s'appelle ALH0001. Alan Hills, hein, c'est ALH et 001, c'est le premier météorite trouvé lors de cette campagne. J'ai même connu un des chercheurs qui a étudié cette météorite. Il y avait des choses très étonnantes qui ont été contestées. Mais ça ne veut pas dire que ça soit annulé, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances que ça vienne du vivant que cela vienne du minéral, des compositions de minéral. Ça, ce sont les trois éléments. Mais après, ils ont étudié d'autres éléments qui, eux, semblent incontestables d'une certaine forme de vie. Ce sont des magnétites, donc des tout petits cristaux de fer que l'on trouve dans des bactéries encore aujourd'hui, et qui sont en grand nombre dans cette météorite, et qui sont surtout en forme de chaîne, comme un collier de perles. Et donc ça, on ne sait pas comment ça peut être fabriqué de façon minérale. Voilà, on en est là.
En tout cas, aujourd'hui, on penche plutôt pour une origine extraterrestre de la vie. Parce que pendant longtemps, les savoirs traditionnels étaient très hostiles à cette hypothèse, jusqu'au milieu du XXe siècle.
Oui, alors là, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Il faut être vraiment ouvert à cela. Il n'y a que deux hypothèses possibles. Soit la vie s'est créée sur Terre, soit la vie s'est créée ailleurs. Et il faut avoir ces deux hypothèses en tête et vraiment les traiter à égalité et essayer de chercher vers où peut pencher la réalité. Sur l'origine de la vie sur Terre, il n'y a aucune preuve. On ne voit pas comment on pourra prouver que la vie est arrivée sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. C'est très difficile, on voit pas très bien comment. Alors on admet que comme la vie est sur Terre, bon ben elle a été créée sur Terre. C'est un peu, ça conforte un peu les religions, la culture, etc. Mais l'autre hypothèse, la vie vient d'ailleurs, doit être développée avec une grande humilité. Ce sont des spéculations, peut-être des hypothèses, des thèses, mais il faut y penser. Et dans mon livre, j'ai développé plusieurs pistes qui permettraient de penser avec plus de conviction que la vie vient d'ailleurs, que la vie est née sur Terre. Ce sont des éléments très simples que j'ai pu développer dans le livre. Et moi, je suis vraiment persuadé que, dans toutes mes études, dans tout ce que j'ai pu lire, qu'il y a de fortes chances que la vie est venue d'ailleurs, dans des météorites, et il y a 3,8 milliards d'années.
Donc on observe les météorites, on observe les comètes, on tente des études en tout cas sur d'autres planètes, comme les dernières sur Mars par exemple.
Ah oui, des efforts considérables entrepris par les pays, c'est une course également. C'est comme la course des scientifiques, là c'est la course des États, c'est l'État qui va trouver, qui va toucher le jackpot de la connaissance. On cherche partout la vie, sur Mars, sur les satellites de Jupiter, dans les comètes. Alors ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, d'abord il y a de l'eau partout, ça c'est très très intéressant, il y a de l'eau partout, sur les comètes, sur les planètes de Jupiter, sur Mars, il y a encore de l'eau, et donc l'eau c'est la vie, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on a trouvé c'est que les molécules du vivant sont ailleurs, sont dans les comètes, sont dans les météorites, et sont en grande quantité ailleurs. On a même trouvé des petits météorites qui contiennent plus de 100 000 molécules organiques, donc qu'on trouve dans du vivant. Et là, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que toutes ces pièces détachées sont réunies dans un tout petit caillou, alors que pour chaque pièce, il faudrait un laboratoire entier pour fabriquer l'acide aminé, le sucre, un élément. Et donc, ça, c'est un des éléments qui me fait penser que ça, quand même, il y a une usine de pièces détachées ailleurs, et ça va se rassembler sur Terre. Non, ça vient tout simplement du vivant qui s'est désassemblé et qui est tombé sur Terre dans un météorite. C'est beaucoup plus simple à comprendre.
Alors, les espoirs aujourd'hui sont tournés vers Mars. Les lunes de Jupiter et de Saturne aussi ont longtemps suscité l'attention. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Bien entendu. Il y a des océans gelés, il y a de l'eau en dessous, il y a de l'eau au-dessus, il y a des geysers, vraiment, il y a beaucoup de d'indices qui permettraient peut-être d'y trouver de la vie. On ne sait pas du tout. Mais même si on ne la trouve pas, ça ne veut pas dire que l'hypothèse que la vie vient d'ailleurs n'est pas bonne. Ça nous renvoie bien plus loin. Simplement, il faut, lorsqu'on admettra que la vie vient d'ailleurs, ça laissera toute une série d'hypothèses. Il faudra laisser tomber le vieux dogme que la vie s'est créée sur Terre, c'est tout.
Alors, il y a une autre question, quand on rentre dans ces histoires extraordinaires, c'est de se dire, mais ces bactéries-là, quand même, elles sont capables de survivre à des conditions extrêmes. Alors, dans l'espace, on va en parler, et puis sur Terre, retour dans les archives sonores de l'INA, c'est un sujet d'Anne-Laure Barral. Le 8 septembre 2015, c'est tout récent, découverte d'un virus géant vieux de 30 000 ans, découvert en Russie, et elle avait tendu son micro vers Jean-Michel Clavry, professeur à Aix-Marseille.
Ce nouveau virus géant, appelé Molivirus sibericum, s'est réveillé après 30 000 ans de sommeil à 30 mètres de profondeur dans le sol gelé de Sibérie, le permafrost. Ce virus infecte des amibes, de petits parasites, mais pas l'homme. Cependant, ce n'est pas la première fois que les scientifiques retrouvent des virus ancestraux. Jean-Michel Clavry, professeur à l'université d'Aix-Marseille, pense qu'il y en a d'autres.
Si des virus d'amibes peuvent survivre très longtemps, on voit mal pourquoi des virus classiques capables d'infecter les humains ne seraient pas capables, eux aussi, de revenir à la vie, entre guillemets.
Le permafrost jouait donc le rôle de prison gelée pour ces virus, mais aujourd'hui, sous l'effet du réchauffement climatique, ils fondent, ce qui rend aussi plus accessibles ces réserves de minerais. Et c'est là que réside le vrai danger, selon le professeur Jean-Michel Clavry, à l'origine de cette découverte.
Quand les Russes vont commencer à creuser le sol pour extraire de l'or et tout ça, des couches qui n'ont pas été perturbées depuis un million d'années vont revenir à la surface. passe. Si quelqu'un se retrouve malade avec des boutons bizarres qu'on n'a jamais vus, qu'il ne le rapatrie pas tout de suite à Moscou, mais qu'il le laisse un peu en isolement sur le site.
Ce qui semblait donc un scénario de science-fiction n'est plus à exclure pour les chercheurs, alors que la Russie, le Canada et les États-Unis partent de plus en plus à la conquête des réserves de gaz, de pétrole et même d'or de l'Arctique.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alexandre Ménez, oui. Les virus géants, on aurait pu vous faire entendre des sujets aussi sur les bactéries retrouvées, beaucoup plus vieilles, mais retrouvées effectivement sur Terre ou dans des blocs de sel, en tout cas. Voilà,
oui,
mais...
oui, on a trouvé des bactéries qui datent depuis de centaines de millions d'années, exact. Prisonnières de petites gouttes d'eau dans des mines de sel, donc à l'intérieur du sel, qui reviennent à la vie dès qu'on les extrait de là. Oui. Ça veut dire que les bactéries peuvent subsister plusieurs centaines de millions d'années sans problème, enkystées, et on a même envoyé des organismes dans l'espace, dans la station Mir, qu'on a sorti dehors, radiation, le vide, on les a rapatriés 500 jours plus tard, elles sont toujours vivantes.
Mais alors est-ce qu'on peut dire, Alexandre Ménès, que c'est ce qui suscite justement cette attention des grandes puissances, que l'on met les moyens pour dénicher la vie, mais aussi la comprendre, parce que c'est vrai que quand on se rend compte de cette capacité de bactéries, de virus à supporter des conditions extrêmes, de grand froid, de chaleur, parce que quand même, pour survivre aux conditions d'atterrissage sur Terre, faut rappeler que la Terre a été bombardée par des météorites, tombée par millions sur la Terre entre 4 milliards et 3,9 milliards d'années.
Oui.
Donc,
il y en avait énormément. 2000 par jour, 2000 par an, pendant 100 millions d'années. Certaines faisaient 20 km de diamètre. On peut le déduire en voyant tous les impacts qu'il y a sur la Lune et sur Mars.
Mais la vie continue.
Non, elle ne brûlait pas. Il n'y avait pas d'atmosphère. Elle tombait dans l'eau. Plouf, c'est tout, hein. Et ce qu'il y avait à l'intérieur pourrait se répandre en mer. Donc ça aussi, il faut le comprendre actuellement. Non, les météorites brûlent, se consument, c'est les étoiles filantes. Maintenant, avant, non, c'était pas du tout le cas, pas du tout le cas.
Alors comment finalement cette vie a pu naître, dans quelles conditions? Donc on a compris, il y a la naissance des bactéries, l'apparition ensuite des premières cellules isolées et puis le développement des civilisations de cellules pluricellulaires. Oui. Le tout, vous venez de le dire, dans un milieu homogène. La mer, donc la mer, la clé de cette origine de la vie.
C'est le berceau de la vie, quoi. C'est le berceau. Et ailleurs, si la vie s'est créée ailleurs, il faut de l'eau. Ça, c'est ce que l'on pense. La vie telle qu'on la définit, bien entendu, hein. Mais je reviens aux bactéries. Les bactéries sont peut-être pas, à mon avis, ne sont pas les premiers organismes vivants. À mon avis, il y a des organismes plus simples que les bactéries qui, en se recombinant, ont donné les premières bactéries. Et ces organismes plus simples sont vraisemblablement des virus indépendants, qui sont beaucoup plus petits que les bactéries, beaucoup plus simples, qui se sont associés entre eux et ont donné les premières bactéries. Et si des bactéries sont arrivées sur Terre, peut-être qu'elles contenaient des virus. Et les virus viennent de là, parce que des virus sont des parasites, et tous les parasites sur Terre, quels qu'ils soient, ont des ancêtres indépendants qui vivaient pas parasites. Et en devenant parasites, ils ont perdu toutes leurs caractéristiques qui leur permettaient de vivre de façon indépendante. Et donc, le virus, c'est quelque chose qui devait vivre en dehors de l'hôte, bactéries, humains, plantes, etc., et qui était différent. Ils ne sont pas arrivés sur Terre, car ils étaient certainement plus fragiles. Seules les bactéries sont arrivées, contenant déjà des parasites, les virus.
D'accord. En tout cas, pour que la vie s'épanouisse, donc dans la mer, hein, il fallait quand même certaines conditions, donc de la chlorophylle, de la lumière, de l'oxygène, on imagine.
Alors, la chlorophylle, c'était déjà dans les bactéries. Les premières traces de vie sur Terre, les stromatolites, des cailloux qu'on trouve encore aujourd'hui en Australie, qui sont recouverts d'une feutrine de cyanobactéries, d'algues bleues, qui forment des petits filaments qui fixent le sable ou la vase. Ces algues bleues aux cyanobactéries, qui sont des bactéries, contiennent de la chlorophylle et contenaient déjà de la chlorophylle. Ce qui était extrêmement étonnant, parce que la chlorophylle, c'est une molécule extrêmement complexe. Et certains auteurs vont même jusqu'à dire que, il y a 3,8 milliards d'années, l'oxygène est arrivé venant d'organismes, puisqu'on a trouvé des hématies, du fer qui est oxydé. Et donc, ça ne peut venir, d'après eux, que de l'oxygène produit par ces cyanobactéries. Et donc, la chlorophylle, ça a été quelque chose de très, très important dans le développement de la vie sur Terre.
Et à partir de là, donc, développement de la biodiversité, hein, pour faire court, j'ai envie de dire, parce que c'est une histoire longue, quand même, on a compris, mais par lente évolution, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a les mutations, les recombinaisons génétiques des reproductions, la sélection naturelle, et puis aussi, il ne faut pas oublier, hein, cette vie qui prolifère, mais aussi qui s'installe par décimation, impact de météorites, crise volcanique, période de glaciation sévère, les grands cataclysmes comme celui survenu il y a 65 millions d'années. Et oui, pauvres dinosaures, hein, qui continuent à nous fasciner.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong ? Dinosaures et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée...
T'as senti ?
...de ce qui va se passer ?
Jurassic Park, Alexandre Ménez, vous-même vous êtes fasciné, vous en parlez dans votre livre, je sais que vous avez vu le 1, le 2, le 3, c'est ça ?
Oui, bien entendu. Mais ce que je voulais dire, ça, Jurassic Park, c'est un événement négatif sur la vie. Mais quand on parle d'évolution, c'est un ensemble de trois éléments. Vous les avez rapidement évoqués. Mmh. Il y a d'abord les mutations génétiques, et ça c'est complètement un hasard complet. Donc petit élément sur des milliers de gènes, ça change un peu. Ensuite les recombinaisons génétiques par la reproduction sexuée, les bactéries n'en ont pas. Et ensuite, c'est la sélection naturelle qui est toujours là, celle que Darwin a décrit, qui sélectionne les êtres qui sont le mieux adaptés à l'environnement dans lequel ils sont. Tout ça, c'est positif, ça crée la vie, c'est des événements créatifs, on peut dire. Et les événements négatifs, ce sont les grands cataclysmes. L'histoire des dinosaures, ça n'est qu'un.
Il y
a
eu,
on en connaît 6 ou 7, mais il y en a beaucoup plus certainement qu'on n'a pas pu identifier dans les milliards d'années qui ont précédé. Il y en a eu beaucoup. Chaque fois, ça a décimé des choses qui étaient peut-être mieux adaptées que nous sur Terre, mais ça les a décimées. Donc ce sont les événements négatifs du long fleuve de la vie depuis 3,8 milliards d'années.
Et alors concernant ces dinosaures, l'hypothèse aujourd'hui, enfin la plus répandue, on peut dire que c'est la disparition de ces espèces à cause de la chute d'une météorite géante.
Alors,
même s'il y a d'autres hypothèses. Hein,
oui, non, mais il y a un chercheur français, Courtillot, Vincent Courtillot, qui a fait un livre là-dessus, qui a vraiment dit qu'il y a eu deux phénomènes qui se sont passés en même temps. Un météorite qui est tombé dans le Yucatan, donc en Amérique, au Mexique, et l'autre, en même temps, une éruption titanesque de volcanique de l'autre côté de la Terre, en Inde, et qui ont dégagé des fumées toxiques de tous les côtés. Donc peut-être que l'un a provoqué l'éruption en bas, peut-être que les deux se sont passés en même temps, mais il y a eu deux phénomènes concomitants à la même période, 65 millions d'années.
Et qui ont provoqué des nuages de poussière tels qu'il n'y avait plus de lumière, tout s'est obscurci,
voilà,
et qu'une
pense,
partie de la vie s'est éteinte. Est-ce qu'on a cherché à recréer la vie en laboratoire de façon artificielle ?
Là aussi, c'est tout un... Ça, c'est comment la vie a pu se former. Oui, il y a beaucoup de chercheurs qui tentent, mais on n'y est encore jamais arrivé. Alors, certains cherchent à créer la membrane de la cellule, qui est très complexe, parce qu'il faut qu'il y ait des échanges avec l'extérieur et l'intérieur. D'autres tentent à reconstituer des petits cycles chimiques qui permettent de se reconstituer, de s'enclencher les uns après les autres. Donc, un automatisme chimique. D'autres, enfin, essayent de reproduire l'ADN, de fabriquer l'ADN à partir de rien, ou l'ARN. Oui. Bon, chacun progresse petit à petit, mais il faudra encore qu'ils s'entendent tous entre eux pour former la première cellule. Et les plus grosses avancées viennent toujours, on prend un morceau d'ADN d'une bactérie, et à partir de ce morceau d'ADN, on peut construire des choses. Mais on prend toujours un morceau du vivant. Donc voilà, on en est. Et alors, quand bien même on arrivera à trouver, on arrivera à fabriquer avec toutes ces laboratoires, ces expériences, quelque chose de vivant nouveau avec un gène que l'on va fabriquer, ça ne voudra pas dire que la vie s'est créée comme ça sur Terre. Ça voudrait qu'elle s'est créée peut-être comme ça ailleurs.
Qu'on arrive à la créer comme
on
ça
arrive simplement
en labo,
à fabriquer un mécanisme de créer la vie, voilà, avec des gènes que l'on souhaite.
Alors vous dites que l'évolution de la vie n'a jamais été prédestinée à former du complexe.
Exactement. La vie, finalement, c'est pas que l'évolution. L'évolution, c'est un long cheminement à... donne B, puis donne C, ensuite A meurt, ensuite C donne D, etc. C'est le long cheminement de la vie. Ça, c'est l'évolution telle qu'on vient de la décrire avec les trois mécanismes. Mais il s'est passé quelque chose de complètement différent. Il y a eu les bactéries d'abord qui se sont associées entre elles. En fait, une bactérie en a mangé une autre. Et la bactérie ingérée a survécu et a formé un organite. Le noyau, la mitochondrie, les plastes, tout ça, ce sont des anciennes bactéries avalées par des bactéries ancestrales. Les plastes, c'était des anciennes cyanobactéries. Et donc, toutes les plantes, c'était avant des petits animaux, comme des amibes ou nos globules blancs, qui ont avalé une cyanobactérie. Et ça a devenu un plaste, c'est devenu les plantes. Voilà. Et donc, ce sont des unions. Et à cette époque, 2,5, 3 milliards d'années, il y a eu plusieurs associations, donc, de bactéries, l'une avec l'autre, plusieurs unions, qui ont ouvert la vie vers une vingtaine de phylums, c'est-à-dire de groupes complètement différents, dont le contenu est complètement différent. Et à partir de là, la vie s'est déployée. Mais c'était toujours des unicellulaires. Mais c'est l'union qui a formé ces cellules à noyaux dont nous sommes. Ensuite, il y a eu une deuxième union. La deuxième union, ce sont des cellules qui ont vécu ensemble, collées l'une contre l'autre. On appelle ça des pluricellulaires. Donc, on peut avoir des fils de cellules ou des couches de cellules collées les unes aux autres. Ça forme une genre de colonie organisée. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la différenciation cellulaire. C'est-à-dire qu'une cellule donne un ordre à l'autre. Toi, tu vas devenir, tu vas capter l'azote. Toi, tu vas te reproduire et toi, tu vas te fixer. Et donc, ça s'appelle la différenciation cellulaire chez nous. Les cellules du début, de l'œuf et du spermatozoïde, ça va donner une cellule du foie, une cellule de... Donc, c'est la différenciation cellulaire. Et cette différenciation cellulaire et la pluricellularité, c'est un autre événement qui est né d'union. Et moi, je place l'union au-dessus de l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'union de virus, on suppose, qui ont donné les premières bactéries, l'union de bactéries qui ont donné les premières cellules à noyaux, et ensuite l'union des cellules entre elles qui ont donné 5 groupes à peine sur les 25 de choses qu'ils voient à l'œil nu, parce qu'ils sont pluricellulaires avec une différenciation cellulaire. Les champignons, les animaux, les végétaux verts, les algues rouges et les algues brunes.
Bon, en tout cas, tous ces petits éléments, là, ces petites créatures qui sont à l'origine de la vie, hein, c'est cette citation aussi que vous nous donnez de Pline l'Ancien. La nature n'est jamais aussi grande que dans ces créatures les plus petites. Et puis, ben, on peut aussi rappeler, hein, ce stade de l'émission, Alexandre Ménès, que nos propres bactéries, hein, celles qui sont dans notre corps et qui forment le microbiote, elles sont là pour le meilleur de nos vies. Alors, du coup, ben, à 16h31, je propose qu'on se fasse du bien. Voilà, on va écouter le choix musical de Rafik Zénine, Stevie Wonder, Pastime Paradise, extrait de l'album Songs in the Key of Life.
Men spending most their lives living in a pastime paradise. Men spending most their lives living in a pastime paradise. Men wasting most their time glorifying days long gone behind. Men wasting most their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, grace relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Men spending most their lives living in a future paradise. Men spending most their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who are them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, grace relations, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most their lives living in the pastime paradise.
Stevie Stevie Wonder, Pastime Paradise, et ça fait du bien effectivement. Suite de la marche des sciences sur France Culture en direct. Il est 16h34 et nous sommes en compagnie d'Alexandre Ménez, biologiste écologue, spécialiste des milieux marins et des premiers organismes, professeur émérite de l'université de Nice Sophia Antipolis et auteur du livre « Comment la vie a commencé », livre paru chez Belin et désormais en livre poche dans la collection Alpha. Et donc c'est ce thème-là, quand, où et comment est apparue et s'est déployée la vie sur Terre, que nous abordons aujourd'hui, des premières bactéries au dernier bouleversement du vivant, une histoire et des recherches qui suscitent bien des réactions et bouleversent quelques préjugés culturels et religieux, comme chez les créationnistes par exemple. Extrait, archive, là-bas si j'y suis.
My name is Dr. John Morris.
Dr. John Morris.
Graduated from the University of Oklahoma.
Diplômé de l'Université d'Oklahoma.
I'm now the president of the Institute for Creation Research.
Je suis maintenant le président de l'Institut pour la recherche créationniste.
Here at ICR, we do research in this general subject of origins. How did we get here? Creation or evolution?
Et ici, nous recherchons justement sur les origines de notre monde. Comment nous sommes arrivés ici? Est-ce par la création ou par l'évolution?
We believe in creation, but we're also Christians. We believe in the Bible.
Voilà, nous on croit à la création, mais on est aussi des chrétiens, donc on croit en ce que dit la Bible.
We have biologists here.
On a des biologistes,
geneticists,
des généticiens,
geologists,
physicists, astronomers, scientifiques, astronomes.
But we do our research from a biblical perspective. We believe that the biblical history is true, and science must, if we do it right, support that.
Voilà. Mais on fait nos recherches dans une perspective biblique. On pense que ce que la Bible dit est vrai et que la science, si elle est juste, doit s'y conformer.
Any scientist who studies the human body sees an amazing engineering work.
Chaque scientifique qui étudie le corps humain voit une espèce de mécanisme extraordinaire à l'œuvre.
It is unscientific to say that these things happened.
C'est pas scientifique de dire que tout ça n'est possible que par le hasard ou la chance.
Alors c'était donc ce John Morris de l'Institut de recherche créationniste de San Diego qui s'exprimait le 1er janvier 2008. Des opposants à cette histoire de la vie, Alexandre Ménez, donc il y en a et effectivement les créationnistes sont connus pour ça.
Il faudrait lui envoyer mon livre, d'ailleurs.
Ah, si on obtient son adresse, on le fera.
Non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que on me dit souvent, lors de conférences que j'effectue sur ce sujet, vous ne croyez pas en Dieu. Ben non, moi je suis chrétien, je suis protestant, moi je crois en Dieu. Et tout ce que je trouve, tout ce que j'ai découvert, toute cette histoire de l'origine de la vie qui est scientifique, c'est quelque chose qui est scientifique et c'est pas des croyances. Et j'ai trouvé deux arguments contre ces créationnistes. Le premier, c'est que lorsqu'on se met dans le contexte de la Genèse, qui est un texte similaire aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens, ça a été donc bien quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, Abraham, Moïse, tous les prophètes. Dieu ne pouvait pas leur expliquer qu'il y avait de l'ADN, des mitochondries, des cellules, la mutation, des trucs. Il pouvait pas dire ça. Donc il a raconté une belle parabole, qui est très très belle d'ailleurs, très bien faite, et ça a été écrit. Et voilà, ça date donc de cette époque.
Donc le premier jour, le deuxième
voilà.
jour, le troisième jour.
Donc il faut bien
jour,
comprendre qu'il ne pouvait pas raconter
jour,
ça.
En sachant qu'un jour n'était pas forcément équivalent à 24 heures d'aujourd'hui, c'est ce que certains disent. Voilà,
oui,
c'est
mais enfin, il pouvait pas raconter ça de la science. Par contre, dans la Genèse, il y a une phrase qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Or, Dieu est intelligent, tout le monde s'accorde à cela, et s'il est intelligent, comme il a créé l'homme à son image, il a créé un homme intelligent. Bien, jusqu'à présent, la démonstration est simple. Mais l'intelligence, ça crée des connaissances, automatiquement, qui s'accumulent. Et toutes les connaissances sur l'origine de la vie sont donc divines. Puisque ce sont des connaissances qui viennent donc d'un homme intelligent que Dieu a créé.
Donc,
Dieu nous a amenés à comprendre comment la vie s'est créée. Voilà.
Donc rassurons tout le monde, vos connaissances, celles que vous nous livrez, scientifiques, issues de la recherche, sont tout à fait à mettre entre toutes les mains, c'est ça?
Exactement, il n'y a pas de raison. On doit s'adapter aux nouvelles connaissances en pensant que c'est Dieu qui nous a mis sur cette voie de comprendre ce qui s'est passé.
En tout cas, c'est vrai que cette acceptation qui n'est pas facile, des origines animales, même de l'homme, peut poser problème aux chercheurs. Je rappelle que par rapport aux États-Unis et les créationnistes, Une loi avait imposé l'enseignement des théories créationnistes à parité avec l'enseignement de l'évolution dans les écoles publiques et elle ne fut abolie par la Cour suprême qu'en 1987.
Oui. Et maintenant, il y a un nouveau groupe qui s'est formé, c'est l'Intelligent Design. Ah. Alors là, eux, ils admettent l'évolution telle que je l'ai décrite, de la petite bactérie jusqu'à l'homme, ils admettent. Mais entre chaque élément, c'est programmé par Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Voilà. Ça c'est. Alors nous là-dessus, on dit c'est pas le hasard, c'est pas la contingence. Nous, on dit que chaque mutation, chaque reproduction sexuée, chaque cataclysme, c'est du pur hasard. Et le hasard, c'est un terme qui est un peu vague. C'est ce qui est fortuit. En fait, tout ce qui est fortuit, c'est soit du hasard, soit des contingences et soit des aléas. Un aléa, c'est quelque chose qui est prévisible, mais on ne sait pas quand ça arrive. Un hasard, on ne sait pas que ça va arriver, mais un observateur peut dire que ça va lui arriver. La contingence, c'est quelque chose de complètement imprévisible. C'est, par exemple, Jean-François qui va à la fac, il crève, son vélo, il crève, il met un poteau, il prend un car. Pendant ce temps, Julie veut prendre un avion pour aller à Paris. Ça marche pas, il y a une grève, il prend un taxi, le taxi tombe en panne, il va dans le car, il rencontre Jean-François, il se marie, ils ont beaucoup d'enfants. C'est une contingence. Impossible à prévoir statistiquement ce qui s'est passé là. Eh ben, les mutations sont des contingences. La reproduction sexuée, je vais le démontrer, c'est une contingence. La sélection naturelle est contingente et les cataclysmes sont contingents. Et les quatre font la vie.
Bon, en tout cas, celui qui a proposé un protocole d'apaisement hein, dans ces situations-là, c'est le biologiste Stephen Jay Gould, hein, avec son le NOMA, le non-empiètement des magistères. C'est plutôt bien ça.
Exactement. Moi, j'apprécie beaucoup Gould. Hein. Mmh. Je l'ai cité très souvent. C'était un homme merveilleux qui a écrit plus de 25 livres sur l'évolution. Il y a la science, il y a la religion. Il faut pas que l'un empiète sur l'autre et vice-versa. Et moi, je dis sincèrement, tout ce que l'on raconte sur l'origine de la vie n'est pas contraire à la religion. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce sont des connaissances qu'on accumule, qu'il faut admettre. Et il faut admettre que ce qui est raconté à la bulle, c'était une belle parabole qui a été racontée à l'époque où les gens ne pouvaient comprendre que cela, quoi.
Et faisons évoluer la connaissance en bonne intelligence. Il y a une question qui se pose, Alexandre Ménez, c'est donc cette vie, elle est aussi nôtre aujourd'hui. Alors vers où entraînons-nous la vie, nous, aujourd'hui? Cette vie, qui, on l'a compris, est fragile, a subi des cataclysmes qui ont déjà vu des espèces décimées. Donc, notre propre responsabilité.
Oui, alors on en parle beaucoup, hein, c'est le changement global qu'on impute justement à notre surconsommation des énergies fossiles. Il y a le fait également que plus on devient nombreux, plus on dépend de cultures qui sont toutes les mêmes, et plus on devient fragile à des attaques de virus, comme on l'a vu ces derniers temps. Donc on est fragile à double titre. Notre surpopulation, notre surexploitation d'espèces toutes identiques, qui sont fragiles parce qu'elles peuvent être attaquées d'un seul coup, et nos guerres entre nous. Donc moi, ce que je pense, c'est que la vie nous a donné une très grande leçon, c'est que c'est l'union qui a déployé la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Ce n'est pas uniquement l'évolution. C'est l'union qui a créé les bactéries, c'est l'union qui a créé les cellules à noyaux, et c'est l'union qui a créé les pluricellulaires que nous sommes. Mmh. Ce sont des phénomènes, des paliers qui ont permis à la vie de se déployer sur Terre.
Oui, parce que vous dites l'union fondée sur la sociabilité et la solidarité. C'est très
ça.
Important.
C'est ça. Et donc je pense que notre avenir, c'est qu'il faut s'unir. Il faut s'unir pour lutter contre les grands défis qui nous attendent.
Alors par contre, bien sûr, dans ce plaidoyer pour une plus grande responsabilité, vous restez lucide quand même, vous dites, hein, vous écrivez dans cette phrase, « Jusqu'où peut-on contrarier le développement économique des hommes pour préserver l'environnement ?»
Eh oui.
Donc ça c'est... Alors, quand on vous écoute, Alexandre Ménez, c'est vrai qu'on se dit, alors là il a brassé tellement de connaissances et puis remonté si loin, se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste encore mystérieux concernant la vie et que vous rêveriez de découvrir, enfin que l'on découvre et de vivre en tout cas? Parce qu'il y a encore beaucoup de mystères.
Ah oui, il y a toujours des mystères, il y en a énormément. Hein. Moi, je pense, j'attends quand même une preuve factuelle d'une vie ailleurs, sur Mars, sur les planètes. Ça serait pour moi une consécration de tout ce que j'ai écrit. Ça ne veut pas dire que la vie vient de Mars ou d'une planète, mais c'est qu'elle a inondé notre système solaire il y a plus de 4-5 milliards d'années. Ensuite, ça permettra d'ouvrir l'esprit à des choses qui sont incommensurables. On peut penser à tout. des vies dans les exoplanètes. Quelle vie dans les exoplanètes? Si la vie est arrivée déjà sous forme de bactéries photosynthétiques sur Terre il y a 4 milliards d'années, qu'est-ce que ça va être ailleurs? D'où elle vient? Donc on peut tout imaginer. Ça, c'est l'imagination. Ça renvoie le sujet principal, d'où vient la vie, à des choses impensables. On peut rêver, on peut faire la science-fiction, là.
Et alors là, sans aller jusqu'à la science-fiction, c'est plus facile à mettre en place, on imagine. Je reviens sur ce plaidoyer pour une plus grande responsabilité. Chacun doit se sentir responsable et prendre en charge le patrimoine vivant menacé. Il y a peut-être des actions à mener, et d'ailleurs déjà une meilleure éducation à l'environnement.
Ah oui, l'éducation à l'environnement, je travaille beaucoup là-dessus pour l'éducation à l'environnement du milieu marin. On décrit les problèmes de l'environnement de façon trop schématique et toujours un peu négative. La vie, elle est là, elle est belle, elle est encore partout. En Méditerranée, par exemple, il n'y a aucune espèce qui en ait disparu. Et il y a des choses que l'on ne dit pas, que l'on explique mal. Par contre, il y a des atteintes au milieu marin dont on parle pas du tout et pas assez, et dont on ne considère pas assez. C'est mal hiérarchisé. C'est par exemple tout ce qui est construit sur la mer, qui a détruit près de 10% des petits fonds sur les côtes entre Marseille et Menton. Il y a vraiment des choses disproportionnées que l'on évoque sur l'environnement et qu'il faut mieux expliquer, mieux apprendre. Et il faut, ce qui est important quand même, c'est que les gens arrivent à aimer la vie. Donc il faut apprendre à aimer la vie, apprendre à faire comprendre comment le vivant existe, comment il se reproduit, comment il fonctionne. Et quand on aime la vie, eh ben on va la protéger.
Et par exemple, voilà. Comme vous êtes, vous, un spécialiste des algues qui ne regardent plus au bord de la mer, les algues de la même façon, parce que celles-ci, vous le décrivez aussi dans le livre, on n'aura pas le temps de tout dire, mais elles sont très riches de cette vie première.
Oui, en mer, sur le bord de mer, on peut récolter des cyanobactéries fixées, on peut les mettre dans la main, ce sont des bactéries, on peut les récolter facilement, et ces cyanobactéries sont vraiment stupéfiantes, parce que c'est grâce à elles qu'il y a de l'oxygène sur Terre, c'est grâce à elles qu'il y a les plantes, puisque tout ce qui est vert, c'est une cyanobactérie à l'intérieur des cellules des plantes, c'est grâce à elles également qu'on est construit, qu'il y a notre architecture de pluricellularité et différenciation cellulaire.
Alors la méthode, eh bien les auditeurs pourront la trouver dans votre livre, Alexandre Ménez, comment La vie a commencé, livre paru chez Belin et donc désormais en collection Poche. Je propose aussi une bande dessinée, Pasteur et la génération spontanée, la vie peut-elle apparaître sans parents? Très jolie en tout cas pour les plus jeunes, de Seka, Yigaël et Gabi Couli, paru aux éditions du Sequoia. Et puis sur le site, vous aurez aussi un lien qui renverra vers un colloque de l'Académie des sciences sur ce thème, c'était en 2013 et qui sera bientôt publié chez Gallimard. Mais vous restez avec nous, suite de l'émission, on vous emmène dans les Alpes.
Merci.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, en partenariat avec le magazine Pour la Science, qui publie en page Histoire des sciences un article intitulé Paul Heilbronner, le métronome de l'inutile, et un article signé du journaliste et écrivain Daniel Léon, avec nous en duplex de nos studios de Lyon. Bonjour Daniel Léon.
Bonjour.
Vous êtes aussi, il faut le dire, auteur du livre magnifique, Les Alpes d'Heilbronner, mesures et démesures, un livre paru aux éditions Glénat. Alors dites-nous, un personnage fascinant, pionnier de la cartographie méticuleuse des Alpes, mais un oublié de l'histoire, j'ai envie de dire, que vous avez découvert comment, vous?
Oui, merci. Moi, je l'avais découvert parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, si on connaît un petit peu l'alpinisme ou la montagne, et les Alpes aussi, puisqu'il nous avait laissé ces fabuleux panoramas aquarellés qui représentaient les principaux massifs des Alpes du Nord, que sont le Mont Blanc et les Écrins. Et on savait aussi qu'il avait fait un travail, tenté de faire un travail de cartographie des Alpes, parce que c'est parti de ça, son idée est partie de là. Il s'est dit, la carte qui existe, la carte d'état-major de la France, ne rend pas bien les reliefs des Alpes. C'est plus difficile à rendre, les reliefs en montagne, évidemment, que ceux des plaines. Et donc, il s'est dit, il faut absolument faire quelque chose, recartographier littéralement ces Alpes pour avoir un meilleur rendu, avec donc une échelle plus grande. Lui, il pensait aux 50 millièmes d'abord. Et donc, tout est parti comme ça. Donc, ça, on savait qu'Heilbronner a voulu faire ça. Moi, j'ai été tout simplement contacté par ses descendants. C'est aussi bête, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets, que ça, qui m'ont dit, c'est dommage que le nom d'Heilbronner soit un peu oublié. On le connaît par une pointe. Il a donné son nom à la pointe Heilbronner dans le massif du Mont Blanc, qui est un point où passe le téléphérique hein, de la vallée blanche qui va entre France et Italie, entre Courmayeur et Chamonix. Mm-hmm. Mais à part ça, on ne connaît pas grand-chose effectivement de ce personnage.
Alors, il n'était pas forcément prédestiné d'ailleurs à réaliser cette œuvre titanesque. Hein. Donc, on rappelle qu'il était fils d'avocat et d'une artiste peintre. Il est né en 1871, hein, élevé par sa tante et son oncle Auguste Michel Lévy. Mais c'est cet oncle-là qui va avoir vraiment une influence sur son destin.
Tout à fait, parce que le dit oncle, il a quand même des acquaintances avec le monde de la cartographie, il est ingénieur des mines, et donc il va emmener effectivement son neveu, comme ça, lors de campagnes topographiques, notamment dans le Massif central pour commencer, et puis très vite dans les Alpes et à Chamonix, la capitale, on peut le dire, de l'alpinisme véritablement. En 1889, à l'époque, Paul Hellebrunner n'avait que 18 ans, et on peut dire que ça a été la révélation. Il s'est dit, c'est quand même extraordinaire, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se dire il faut vraiment faire quelque chose. Il a fait des photos parce que c'est aussi un remarquable photographe, on oublie un peu de le dire aussi ça, et donc il a commencé à se dire il faut absolument faire quelque chose, et tout est parti de là. Donc il est rentré du côté de Paris parce qu'il vivait entre Paris et Nancy. Il est né à Nancy un peu par accident parce que ses parents ont fui la commune en 1871, la guerre civile, et puis il a commencé à fomenter tout ça, il a commencé à rencontrer des gens, et puis il a commencé par le commencement en allant tout simplement gravir des montagnes. Et dès 1891 il est allé gravir le Mont Blanc, donc le plus haut sommet des Alpes occidentales. Et ça a commencé comme ça. Il a rencontré des gens très importants dans l'histoire de la cartographie qui sont les Valot, Charles et Henri Valot, et donc qui eux avaient un peu la même idée que lui, mais simplement à l'échelle du massif du Mont Blanc. Et il voulait faire une carte aussi très précise. Et tout est parti de là. Et il s'est dit, il faut trouver une solution. Alors à l'époque, c'était compliqué hein, de faire la cartographie des montagnes parce que l'aviation n'existait pas. Il fallait les gravir, tout simplement, les dites montagnes, pour les mesurer. À l'aide de gros appareils qui s'appellent les théodolites, des choses comme ça.
Oui.
Donc ça exigeait de prendre des mesures extrêmement précises, et puis surtout de se livrer à des calculs interminables. C'était très complexe, il n'y avait pas que le terrain, il y avait aussi toutes les opérations à faire ensuite de correction, de compensation, sans entrer dans les détails techniques. Mais en tout cas, il a mené ainsi des campagnes de stakhanoviste, hein, véritablement, pendant 25 ans, dans toutes les Alpes du Nord, et il passait tous ses étés, 3-4 mois par an, dans les pires conditions, comme dans les meilleures quelquefois aussi.
Mais oui, vous avez raison de dire les pires conditions, parce qu'on oublie qu'à cette époque-là, quand même, les équipements était encore très rudimentaire hein, pour atteindre ces sommets.
Ah ben tout à fait. Ils avaient vraiment des lourdes chaussures pour bivouaquer des tentes extrêmement volumineuses. Ne parlons pas des appareils de mesure, mais aussi des appareils photo, parce qu'encore une fois, il lui fallait photographier aussi pour mesurer. Donc c'était très complexe. Et même s'il ne gravissait que les voies dites normales, c'est-à-dire les plus faciles de ces montagnes, c'était de véritables petites expéditions. Hein. Il s'accompagnait de guides, de porteurs. Il fallait préparer tout ça à l'avance. Il fallait équiper les montagnes de ce qu'on appelait les stations, c'est-à-dire des repères, hein, des signaux qu'on mettait au sommet, puisque les mesures s'effectuaient justement en visant ces signaux qu'on devait voir de loin. C'était ça l'obligation aussi. C'était de véritables expéditions qui, des fois, imposaient d'emmener 6, 7, 8 personnes avec lui.
Alors revenons peut-être, Daniel Léon, sur son bagage quand même, parce que c'est un homme intelligent, en tout cas il a de grandes capacités, il fait des études brillantes, il va sortir major de l'école polytechnique, il sera ingénieur des mines, docteur S sciences mathématiques, il adore la géographie, la photographie et le sport, et d'ailleurs vous le mentionnez hein, dans cet article, il fréquente l'école Monge et il aura comme jeune professeur Pierre de Coubertin.
Oui, il aurait eu, on va utiliser le conditionnel, oui. Mais c'est pas impossible parce que à cette époque-là, c'est donc fin des années 1880, eh bien effectivement Pierre de Coubertin, donc le futur rénovateur des Jeux Olympiques, eh bien se trouvait était le professeur, un des professeurs de cette école. Et c'est vrai que de Coubertin, même si c'est pas le sujet du livre, avait seulement 25 ans à l'époque. Et il faut savoir que il était pris pour un illuminé quand même. Hein, Coubertin, avec ses cours complètement révolutionnaires, qui voulait déjà restaurer complètement l'enseignement du sport. Et c'est vrai que Paul Hellebrunner, qui était à la fois un excellent cavalier, qui était un bon escrimeur, eh bien, a profité de cet enseignement de Coubertin, très certainement. Oui.
Alors, c'est vrai qu'on se dit, il a quand même passé 25 ans de sa vie, à raison de quoi ? De quelques mois par an à arpenter les montagnes ?
Oui, oui, c'est considérable parce que dès que le terrain le permettait, les conditions météo le permettaient, c'est-à-dire qu'il y avait plus trop de neige parce qu'en plus on pouvait quand même pas y aller dans des mètres de neige bien entendu. Donc ça commençait au mois de juin et puis il restait ben tant que justement la neige n'arrivait pas à nouveau. C'est-à-dire ça pouvait aller jusqu'au mois d'octobre. Donc oui, les campagnes duraient 3-4 mois. Le terrain était difficile, le terrain de la haute montagne encore, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un équipement qui était pas spécialement adapté, qui était pas imperméable. Donc on imagine que jour après jour et puis avec une météo extrêmement changeante. Hein. Donc oui, c'était très très difficile, c'était très éprouvant et puis les journées étaient très longues. Il arrivait qu'il partait de nuit pour monter au sommet, pour installer les appareils photo et les appareils de mesure, pour faire les premiers tours d'horizon photographique. Il prenait à 360 degrés toutes les montagnes qu'il y avait autour de lui pour effectuer ses mesures. Ensuite, c'était le Théodolite qui prenait le relais. Mmh. Et ensuite, une deuxième campagne de photos parce que plus on avançait dans la journée, meilleures étaient les conditions de lumière et ainsi de suite avec tout le matériel. Et puis, il fallait répéter ça le jour suivant. Des fois, c'était des journées où ça commençait de nuit et ça se terminait le soir de nuit aussi.
Alors, voilà. Il était réputé méticuleux, obstiné. Concrètement, quand vous avez plongé dans les archives, hein, d'ailleurs, vous allez nous dire ce qu'il reste de ces archives, il avait consigné ses études, tous ses travaux et puis finalement, son travail sur le terrain dans des carnets. Qu'est-ce qui reste de lui ?
Alors c'est considérable ce qui reste de lui parce que c'était quelqu'un effectivement qui, moi j'ai coutume à dire, mais là encore en utilisant les guillemets, que ça relevait de l'autisme hein, ce qu'il faisait, parce qu'il notait tout dans des carnets personnels, sur le terrain effectivement. Ensuite il a quand même publié 12 volumes de ses campagnes hein, ça s'appelle la description géométrique des Alpes françaises, 12 volumes mais dont le plus petit doit faire 4 ou 5 kilos quand même hein. Donc c'était considérable, donc on retrouvait tous ses calculs dans ses volumes, donc il a tout gardé, ce qui nous a énormément servi parce que ce fonds est au musée dauphinois. D'ailleurs, au musée dauphinois, j'en profite pour le préciser, qui est co-éditeur avec Léna de l'ouvrage. Mmh. Et donc, il a tout gardé. Et c'est une chance pour le chroniqueur ou l'auteur que j'étais parce qu'effectivement, il y avait toutes les correspondances. On parlait tout à l'heure de ces cartographes, les Valos, dans la région de Chamonix. Eh bien, j'avais des volumes entiers de correspondances entre ces personnes. Donc, effectivement, il a absolument tout conservé. Il conservait la moindre documentation. Il était très rigoureux, très méticuleux. C'est pour ça que je parle presque d'autisme. Et il se corrigeait, il se recorrigeait, c'était très impressionnant.
Alors pourquoi est-ce que vous avez intitulé cet article « Le métronome de l'inutile » finalement ? Il a fait une œuvre aujourd'hui, quand on voit la qualité effectivement de ses études, on se rend compte que faire tout ça avec les relevés à la main, c'est exceptionnel.
Oui, 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 parce qu'effectivement, à l'époque, bah oui, on utilisait les moyens du bord, hein, c'était le cas de le dire. Alors, métronome de l'inutile, oui, bon, alors, le côté métronomique, on l'a évoqué, c'était parce que c'était systématique, hein, il fallait mesurer toutes les montagnes, et il fallait sans cesse, c'était rébarbatif, répétitif, hein, donc voilà. Mais, alors, de l'inutile, pourquoi ? Oui, parce que finalement, comme ça paraît être énorme, et c'est considérable ce qu'il a fait sur le terrain, dans l'absolu, en pratique, évidemment, mais par contre, ça n'a pas servi finalement à grand chose parce que d'abord ça a été très étendu dans le temps, ça a commencé vers 1903-1904 pour s'achever en 1928, puis ensuite il a fallu encore procéder, comme je disais tout à l'heure, à des corrections, ça l'a amené jusqu'aux années 30, et pendant ce temps-là, le progrès l'a dépassé. Le progrès l'a dépassé, l'aviation est apparue, la photographie aérienne est apparue. On a su comment reproduire, rendre à partir de simples photos aériennes le relief des montagnes. Et donc, c'est devenu un peu inutile ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est une façon, il faut relativiser mon propos, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Mais heureusement, c'est un clin d'œil. Et il nous laisse un autre héritage.
Bon, en tout cas, il a été honoré quand même en son temps, Légion d'honneur en 1925, il entre à l'Académie des sciences en 1927, partage sa passion avec le roi Albert Ier de Belgique, sera reçu par le pape Pie XI au Vatican. Voilà. Et il s'éteint donc le 18 octobre 1938. Donc ce qu'il reste de lui, hein, Daniel Léon, ce sont les photos conservées au musée dauphinois à Grenoble, des aquarelles aussi, magnifiques.
Voilà. Excusez-moi.
Je vous en prie. Les aquarelles.
Non, mais c'est vrai, les aquarelles, il y a quand même des panoramas aquarellés qui font jusqu'à 6 mètres de long pour plus grands, donc c'est considérable.
Exceptionnel.
Imaginez ça dans votre salon. Et puis entre 13 et 14 000 photos, plaques de verre et tirages papier, qui sont tous au musée dauphinois, donc qui représentent un panorama complet des montagnes françaises de cette époque-là, c'est-à-dire du premier quart du siècle dernier. C'est considérable.
Merci Daniel Léon. Hein. Je renvoie nos auditeurs. auditeurs vers votre article paru dans le magazine Pour la Science, et donc article intitulé Paul Heilbronner, le métronome de l'inutile, et puis votre livre, hein, Les Alpes d'Heilbronner, mesures et démesures, paru aux éditions Glénat. Informations et liens, bien sûr, à retrouver sur le site internet de l'émission, franceculture.fr. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et c'est la fin de la marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Catherine Donnet qui prépare à mes côtés l'émission, à Naï Morales pour la qualité des archives sonores, à la réalisation Rafik Zénine aujourd'hui et à la technique Alexandre Dang. Et je n'oublie pas à Radio France Lyon, Chantal Nouvelot. La semaine prochaine, ne ratez pas l'émission spéciale Grand Portrait que nous vous proposons. Grand Portrait avec Edith Heard, spécialiste en épigénétique. Une très belle découverte de la vie et de l'œuvre de cette femme étonnante. Vous le verrez. Et puis demain, autre rendez-vous de Culture Science à 16h. Michel Albergantier, Sciences Publiques, sur le thème « Quel mystère cache la particule X du CERN ?» Et puis dans un instant, à 17h, suite de votre programme, de votre après-midi, avec Éric Gardette.